Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Jacques Weber
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu. On est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. Pour commencer, un petit son qui vous met, je le sais, très en joie. On écoute.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, chassé de votre esprit.
La voix de Balou mélangée à celle de,
j'adore.
De Jacques.
C'est vrai que ça me met complètement en joie.
Mais votre sourire, ça se voit. Pourquoi?
C'est un grand metteur en scène, très sérieux, Peter Stein, qui un jour m'a dit « Est-ce que tu as gardé ton petit cœur d'enfant ?» J'ai dit « Oui, bien sûr ». Et bien, alors, cours voir le livre de la jungle et j'ai...
Preuve en est.
Je chantais et dansais dans le cinéma.
Ouais. On adore commencer comme ça. Quel plaisir de vous recevoir, Jacques Weber. Vous êtes à vous seul, le théâtre, le cinéma, la télévision, une voix, un passionné de son art. Comme tous les autres comédiens, du jour au lendemain, il y a un an, vous avez été stoppé net dans votre élan et empêché de continuer à jouer. Mais il y a eu rapidement cette soirée où vous avez eu l'idée de faire un film de théâtre. Vous avez pris les comédiens, le théâtre de l'atelier, comme décor. Vous avez choisi une pièce de Tchekhov. Vous la répétez et tout ça, vous le filmez. La scène, les coulisses, comme un moment de vie et de jeu. Le résultat s'appelle Atelier Vania. C'est réussi et c'est émouvant. Ce sera diffusé bientôt en prime time sur France 5. On va en parler dans un instant. Au cours du journal inattendu, on recevra aussi l'invité que vous avez choisi, Jacques Weber, et dont vous admirez l'action et les idéaux. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Environnement et très engagé, Nicolas Hulot. Et puis tout à l'heure, on vous réserve une petite surprise. Mais d'abord, il y a un rituel dans cette émission, vous le savez. C'est l'exercice de l'autoportrait. Pour commencer, je donne une minute à mon invité pour se présenter. Alors Jacques Weber, qui êtes-vous?
On est parti. Jacques Weber, 23 août 49, 1m87, le quintal légèrement dépassé. Ma profession est d'être comédien. Parfois, je tente la mise en scène, l'écriture, la réalisation, voire la chanson. J'écris, j'aime cette phrase d'un personnage de la Dolce Vita de Fellini, amateur chez les professionnels, professionnel chez les amateurs, c'est-à-dire aimer et parfois, et parfaire au mieux son artisanat. J'ai conscience d'être un immense privilégié et chanceux, qu'il s'agisse de mon éducation, de ma famille, de mon métier. J'ai la chance d'avoir le temps de penser, de réfléchir, de tenter de mieux comprendre les hommes et le monde. Est-ce l'âge et notre époque? Je découvre ému, mais terrorisé aussi, le monde vivant, la fabuleuse beauté de la nature et le mépris que les bipèdes sans plumes que nous sommes lui infligent. Si heureux aussi d'avoir admiré, d'avoir su admirer, d'avoir des maîtres et des exemples pour m'aider à rester conscient, à sortir du fatalisme de beaucoup, du cynisme inhumain des puissants de ce monde. Passant mon temps au théâtre où tout est faux pour être vrai, j'essaie tant que faire se peut de rester vrai dans une société devenue fausse. Ma patrie, c'est la terre, l'univers, les étoiles. Je suis frère de ceux qui vivent, concitoyen de l'éléphant et de la fourmi, du baobab et du coquelicot. Enfin, j'aime le mot fraternité et n'aime pas du tout l'expression en même temps, car comme disait l'immense Jean Gabin, oh, je vais te dire, on peut pas jouer deux choses en même temps.
Ça me donne envie de dire en même temps. Quelle carrière et quelle humilité. Je sais que vous n'aimez pas donner de leçons, mais de vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est une belle leçon de vie, une belle leçon de morale. Merci beaucoup.
Et vous êtes
un passionné d'actualité aussi. Alors tout de suite, les grands titres de ce samedi. Émotion vive à Rambouillet au lendemain de l'assassinat de Stéphanie, policière tuée à l'arme blanche par un homme tunisien de 36 ans. Nous serons sur place dès le début de ce journal et vous entendrez le témoignage d'un de ses amis. Il avait beaucoup changé et il était préoccupé, dit-il. C'est un document RTL. Ce week-end sera synonyme de vaccination pour de nouveaux corps de métier. Caissiers, chauffeurs de bus, éboueurs. Ces professions de deuxième ligne ont désormais un accès prioritaire pour se vacciner. Nous serons en direct de Disneyland Paris, oui, transformé en vaccinodrome géant. Nous avions suivi, il y a exactement 40 jours, leur entrée dans la grotte de l'Ariège. Des volontaires se sont prêtés à une expérience scientifique incroyable. Ils sont sortis de l'obscurité en fin de matinée. Nous étions à leur côté. Et puis de la Terre, nous partirons vers l'espace. Les dernières vérifications sont en cours avant que Thomas Pesquet et son équipage puissent quitter leur capsule pour s'installer à bord de la Station Spatiale Internationale. La mission Alpha est lancée pour 6 mois. On ne sait pas exactement quelle température il fait là-haut, Valérie. En tout cas, on sait que ce sera un très beau week-end sur la France.
Oui, déjà aujourd'hui, c'est vrai que ça se passe bien. Alors, cela dit, je vois quelques averses qui sont présentes sur les Pyrénées, côté espagnol. J'ai quand même bien peur que ça passe la barrière pyrénéenne d'ici ce soir, donc ça pourrait claquer localement en montagne. Partout ailleurs, c'est du ciel bleu. Il y a quelques nuages qui circulent sur la pointe bretonne. Ce sont vraiment des nuages élevés, pas grand-chose. Au pire, on aura un petit soleil voilé cet après-midi sur la façade ouest. Ailleurs, donc du grand ciel bleu. Et c'est en Bretagne qu'il fera pratiquement le plus chaud cet après-midi. On attend 24 degrés à Brest ou encore 25 à Nantes, comptez 16 à Lille, 21 à Paris et Mulhouse, 22 degrés à Marseille, 25 à Toulouse. Bordeaux culmine avec 27 degrés.
Merci Valérie. D'une voix qu'on adore, que les auditeurs adorent sur RTL avec cette météo, ce sera la vôtre à 13h pour donner des nouvelles du temps, Jacques Weber. Merci Valérie, on vous retrouve à 18h.
Le journal inattendu sur RTL.
On prend la direction de Rambouillet pour ouvrir ce journal. Ville des Yvelines sous le choc après l'assassinat hier de Stéphanie, 49 ans et fonctionnaire de police, par un Tunisien de 36 ans. Elle a été tuée de 2 coups de couteau dans le sas d'entrée du commissariat. L'assaillant, lui, est décédé suite à l'intervention d'un autre policier. Mourad Djabari, vous êtes à Rambouillet pour RTL. Les habitants, les collègues, tout le monde est envahi par l'émotion et l'incompréhension ce midi encore.
Absolument. Et ce midi, l'émotion et la douleur laissent place peu à peu à la colère. Dans les rues pavées, étroites et cossues du centre de Rambouillet, les habitants ne cachent plus leur exaspération.
Et c'est surtout un sentiment de colère par rapport à ces actes de violence qui se répètent sans arrêt sur les forces de l'ordre, sur les enseignants aussi. Mais c'est plutôt une colère froide. On a l'impression qu'on subit. C'est dommage.
Rambouillet, une petite ville un peu bourgeoise, moins de 30 000 habitants, loin de Paris, entourée d'une grande forêt. Et son commissariat éloigné du centre-ville, posé dans un quartier bordé de petites maisons où chaque habitant a une pensée pour Stéphanie, mère de 2 filles, tuée hier de 2 coups de couteau.
Moi, ce qui me touche, c'est qu'il y a une famille endeuillée. Bon, il y a une commune endeuillée, c'est sûr, mais il y a des enfants derrière tout ça. Il y a un mari, il y a sûrement des frères, peut-être des parents de cette dame. Au niveau émotion, c'est très touchant.
Et puis, l'incompréhension encore.
Je suis en colère, je suis triste. C'est incroyable d'être à Rambouillet, où on est une petite ville tranquille, et revenir de déjeuner et se faire assassiner lâchement. Quoi. C'est douloureux, c'est honteux.
Bientôt, 24 heures après cet attentat, l'émotion reste vive dans cette ville paisible, frappée hier par l'horreur.
Mourad Djabari, en direct de Rambouillet pour RTL. Du côté de l'enquête, le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Des perquisitions ont été effectuées. 3 personnes sont toujours en garde à vue. Quant à l'assaillant, on sait qu'il est né à Sousse, en Tunisie. Il a 36 ans. Il est en France depuis 2009 et il a obtenu une carte de séjour en décembre dernier. Document RTL, Nicolas Burnan a pu joindre Rached, l'un des amis tunisiens de l'assaillant. Les deux hommes se sont croisés il y a un mois en Tunisie et Rached explique que son ami avait l'air perturbé au moment de cette rencontre. Écoutez.
D'abord, on était dans le même lycée, dans la même classe, avec des amis d'enfance. Et après, il est parti en France. Et quand je suis parti en France en 2011, je l'ai vu. On a sorti ensemble et tout. Il était normal. Et jamais il a parlé de religion, de l'islam, des groupes, des trucs comme ça. Je n'avais aucun doute de lui. Le 1er mars, je l'ai vu en Tunisie avec son frère et un autre ami à lui. Il a changé complètement. Physiquement, il a maigri. Il a une barbe. Il ne parle pas trop. Peut-être il a quelque chose dans la tête. Préoccupé, oui, voilà. Il n'était pas normal. Je l'ai appris la nouvelle ce matin. C'est la surprise totale.
Document RTL signé Nicolas Burnan. Une sécurité renforcée doit être mise en place de manière durable devant les commissariats et les gendarmeries. L'actualité, c'est également ce coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination contre la Covid-19. Une 20aine de métiers de deuxième ligne va pouvoir bénéficier d'accès prioritaire dès aujourd'hui pour se vacciner. Chauffeur de bus, caissier, agent d'entretien, agent de sûreté. Seule consigne, il faut avoir plus de 55 ans. Cela concerne 400 000 personnes. Aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture d'un nouveau grand centre de vaccination dans un lieu plutôt atypique. Bonjour Nerissa Emani, vous êtes à Disneyland Paris et ce n'est absolument pas pour profiter de ces attractions.
Oui, je suis actuellement dans la salle de vaccination avec Stéphane. Il est pompier en Seine-et-Marne. Stéphane, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez appris à vacciner spécialement depuis la crise du Covid. Comment ça se passe? Vous avez acquis le geste?
C'est un geste à prendre, c'est assez simple. Et par contre, il y a une doctrine qu'il faut bien respecter. Et puis, ça suit son cours, il n'y a aucun souci.
Juste à côté de moi, je suis avec
Janine.
Janine, 69 ans. Non. Vous êtes impatiente, vous vous sentez comment?
Mais très bien, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas du tout inquiète.
C'était important pour vous?
Oui, c'était important. Voilà, oui. J'ai des petits-enfants, j'ai un mari qui est un peu plus âgé que moi et voilà.
Bon, bah, c'est parti pour la vaccination.
Allez, c'est parti. Voilà. Ça va? De toute façon, vous me faites confiance. Hein.
Bah, oui, oui, oui.
Voilà, c'est fait.
Merci.
Vous en êtes à combien de vaccinations aujourd'hui?
J'en suis quasiment à 40. Depuis 9h30, j'arrête pas d'enchaîner là.
Voilà, et à savoir qu'aujourd'hui, 1000 personnes vont recevoir une dose de Pfizer dans ce nouveau vaccinodrome.
Merci Nerissa Emani qui dit vaccination, dit reprise de nos vies hein, le plus rapidement possible. On entend, c'est agréable d'entendre ces familles qui sont normalement ses parents et
oui,
ses grands-parents.
Il faut absolument insister sur
qui
le
vont
fait
pouvoir revoir
que la
leurs
seule
enfants.
Solution, c'est la vaccination. Et que ce qui est très très dommage, très grave même, c'est que c'est tellement événementiel toute cette histoire, et normalement événementiel, que les gens, que tout est grossi. Par exemple, le danger de l'AstraZeneca correspond à peu près à autant de chances que d'avoir une thrombose que si la foudre vous tombe sur la tête. Il faut rappeler tout ça. Il faut que les gens cessent d'avoir peur. La seule solution pour s'en sortir, ce ne sont pas des mesures restrictives, c'est la vaccination à haute dose. Alors après, l'établissement des priorités, je n'ai pas de compétences pour répondre à ce problème du tout.
Non, mais c'est important de le rappeler. Allons nous faire vacciner. Dans ce journal, on va aller du sous-sol à l'espace. Tout d'abord, direction l'Ariège. Souvenez-vous, il y a 40 jours exactement, cette femme et cet homme volontaire avec un chef de mission se sont installés dans la grotte de Lombrive, sans montre, sans téléphone, sans lumière
au
naturelle.
Au même moment, il y avait un gars qui allait faire là-haut.
Avec une température
si vous descendez,
de pas plus de 12 degrés et près de 100% d'humidité, cette expédition appelée Deep Time a pris fin aujourd'hui. Patrick Hisson, vous étiez il y a un peu plus d'une heure avec tous ces volontaires qui sont sortis. Alors comment vont-ils? Comment se sentent-ils?
Eh bien, forcément fatigués, mais plutôt en forme et ravis d'être reçus à la sortie de la grotte par un comité d'accueil.
C'est bizarre d'avoir le soleil quand même.
Christian Clot est le chef de l'expédition.
On respire de nouveau la forêt, donc ça fait du bien. C'est étonnant. De la fatigue, mais en même temps, beaucoup de satisfaction d'être arrivé au bout. Donc voilà, on est content. On est très heureux d'être là. Très heureux.
Mais l'usine Malinder vient de passer le dernier jour dans la grotte aux côtés du groupe.
Ils vont très très bien. Ils étaient même, je pense, un peu déçus qu'on vienne si tôt.
Et le décalage, il est d'une semaine à peu près,
ouais,
c'est ça?
À peu près. Ils étaient au 31e cycle.
En clair, la désorientation dans le temps est au rendez-vous. Le groupe a le sentiment d'avoir vécu une période de 31 jours seulement, alors que 40 se sont écoulés. Tous vont désormais cet après-midi et la semaine prochaine se plier à toute une série d'examens médicaux.
L'objectif de cette mission était donc de comprendre comment le cerveau humain s'adapte à un milieu différent. Est-il hostile ou pas? C'est une question, en tout cas. Ces expériences sont très intéressantes.
Dans ce que vous dites, ce que tout le monde dit, c'est le terme hostile. Alors même qu'on peut renverser le problème et se dire, mais est-ce que nous n'allons pas faire ces recherches et là-haut et là-en bas? Parce que nous sentons profondément que nous avons transformé un monde merveilleusement hospitalier en un monde hostile pour la plupart d'entre nous. Et voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis bien évidemment, sur le plan, alors là, même philosophique, le problème de la temporalité, la notion de temps qui est posée. Le problème aussi du confinement réel, de cette espèce de claustration. Ce sont des problèmes qui peuvent faire aller loin dans la réflexion, quoi, sur nos progrès à venir.
Dans un instant, on va voir ce qui se passe dans l'espace, alors.
Ah oui, ça me passionne complètement.
Thomas Pesquet, bientôt à bord de la Station Spatiale Internationale. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Jacques Weber, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Jacques Weber et Ophélie Meunier.
Allez, comme promis, direction l'espace pour la suite de ce journal. On l'a suivi hier, le cœur battant. Le décollage de l'astronaute français Thomas Pesquet pour la mission Alpha. Il va passer 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Après 23 heures de vol, l'équipage s'est arrimé en fin de matinée. Et avant de pouvoir débarquer de la capsule, c'est le moment des grandes manœuvres, Lionel Gendron. Et c'est extrêmement précis et minutieux.
Dragon.
Oui, bien, on a entendu comme un petit clic, en fait, qui confirmait que la capsule Crew Dragon était bien amarrée à la Station Spatiale Internationale. Alors, c'est comme un branchement dans une prise, mais c'est délicat. Il a fallu 10 minutes pour arriver en orbite, et là, près de 24 heures pour s'amarrer. Alors, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on procède à toutes les vérifications. On vérifie notamment que l'amarrage est bien étanche, qu'il n'y a pas d'air qui passe. On équilibre aussi les pressions à l'intérieur de la capsule. Pratiquement, tout est automatisé. Et une fois que les feux seront ouverts, eh bien, les portes devraient s'ouvrir dans 3 quarts d'heure à 13h15 environ. Thomas Pesquet et ses collègues pourront alors rentrer dans la station où il y aura une sorte de cérémonie d'accueil organisée par les 7 astronautes déjà à bord de la station.
Merci Lionel, correspondant de RTL aux États-Unis.
Même là-haut, on prend le temps de la cérémonie.
Oui, tout à fait.
Lui, c'est un type merveilleux. Parce que pour faire tout ça, il faut être John Wayne, le professeur Tournesol, tout en même temps. Quoi. Et puis Usain Bolt, enfin, il faut être un grand sportif, il faut être un cerveau comme ça, il faut garder son calme. C'est tout à fait admirable. Et moi, ça me fait penser que j'ai eu une chance inouïe. J'étais dans un bistrot et je connaissais le monsieur qui a choisi Thomas Pesquet, qui était Jean-Jacques Dordain, qui était le grand patron de l'Agence spatiale européenne. Et un jour, il me dit, avant que Pesquet monte là-haut, il me dit, tu veux parler avec les mecs de l'espace? Je dis, oui, puis je veux rencontrer Julia Roberts, et puis, etc. Enfin, je déconne. Bon, il me dit, non, tu vas voir. Et alors, il sort son portable. Et c'était un portable un peu spécial, un peu James Bond, tu vois. Et il fait un truc, et puis il fait allô, machin. Et j'ai parlé. J'ai parlé en direct avec les astronautes de là-haut. Et je les entendais comme je vous entends maintenant. Et ça m'a bouleversé. Et non, je trouve ça admirable. On a besoin de ça, hein. Il faut vite aller voir là-haut si on pourra, parce que ça devient trop petit la Terre.
Alors au programme de ces 6 prochains mois, justement, une centaine d'expériences scientifiques et 2 heures de sport quotidiennes.
Ah oui, c'est ce que je vous dis, Usain Bolt.
Un mot de foot avec les résultats de cette 34e journée de Ligue 1. Très bonne soirée pour Marseille hier, vainqueur de Reims 3-1. Les matchs à suivre de ce samedi, Saint-Étienne-Brest à 13h et Metz reçoit Paris à 17h à 18h30. On refait le match avec Christian Olivier et ses chroniqueurs, suivi de RTL Foot. À partir de 20h, voilà pour l'actualité. Jacques Weber, depuis un an, depuis que nous sommes plongés dans cette pandémie, vous avez trouvé le moyen de continuer à jouer au théâtre et même de tourner 3 films. Rien que ça. Le premier sera diffusé en mai, en prime time sur France 5. Ça s'appelle Atelier Vania, référence à la pièce de Tchekhov, Oncle Vania. L'occasion de découvrir le théâtre et ses comédiens sous une toute autre forme. On pourrait appeler ça un film de théâtre. J'en ai parlé un peu en introduction, mais expliquez-nous avec vos mots ce qu'on y trouve dans ce film. Quel est cet objet nouveau télévisuel ?
C'est tout simple. J'étais dans un théâtre vide. J'avais envie de jouer. Et en même temps, les salles de cinéma étaient vides. Donc je me dis, quand les choses sont vides, il faut être plein. Il faut être plein d'idées, plein de choses, etc. Et donc, je me suis souvenu d'une chose qui existait au début de la télévision, c'est qu'on répétait 3 semaines en studio. Moi, j'ai fait des choses merveilleuses avec Michel Bouquet, Delphine Seyrig, enfin, avec des gens comme ça. Et après, on tournait tout en 4 jours. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et ça m'est revenu comme ça au moment de cette nécessité de jouer à tout prix. Et j'ai dit, mais à ce moment-là, alors j'ai fait une petite note d'intention, comme il faut faire pour aller séduire France Télévisions. Et puis j'ai dit, voilà, on fait ça. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume. C'est ce miracle de la dernière répétition que je regrette presque toujours lors de la première représentation. C'est toujours très miraculeux. On n'a pas peur des méchants critiques. On n'a pas peur. On est là, on est libéré, ça. On
c'est
est plein du travail.
Qu'il faudrait qu'on
le travail
voir,
est encore
en fait.
Tout neuf, ouais. Et bon, bref. Ouais. Et j'ai dit, voilà, c'est ça le jeu. On travaille 3 semaines, on tourne en 3-4 jours avec 2-3 caméras, et il n'y a pas ces acteurs à nu. Alors, c'est ce que nous avons fait avec Vania, c'est ce que nous avons fait avec Cyrano, c'est ce que je viens de faire avec Denis Podalydès sur le travail autour de la première scène du Misanthrope. Et si vous voulez, c'est tout simple, c'est que qu'est-ce que le cinéma permet ? Il permet, par exemple, sur un répertoire comme celui de Cyrano, qui est un répertoire symphonique, tonitruant, d'aller chercher l'intimité, la poésie douce, incertaine, frémissante, troublée qu'il peut y avoir dans la poésie réelle de cette pièce. On peut aller aussi en enfin, dans le silence, non seulement des mots, mais aussi des acteurs. Nous prenons l'exemple de Tchekhov, où soi-disant, dans un premier temps, on peut penser qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est ce que l'on disait toujours de Tchekhov. Et on se rend compte que, dans une phrase, on peut passer directement elle commence dans les rires et dans les larmes. Et puis une phrase dit
parle, dit toujours, souvent, chez Tchekhov, le contraire de ce que l'être ressent. Donc là, si vous avez en contrepartie le gros plan, le regard des acteurs, eh ben, ça fait une chose facile, ce que vous avez vu. Et pour finir, je dirais que moi, je travaille toujours sur l'amour des acteurs. C'est-à-dire, je ne peux travailler d'abord que dans le non-conflit, pas de rapport de force, pas de metteur en scène qui gueule, mais l'amour fou que j'ai pour François Morel, pour Stéphane Caillard, pour Audrey Bonnet, pour des gens plus ou moins connus.
Alors, tous voilà. Ces comédiens jouent dans Atelier Vania.
Dans Vania, voilà, c'est
et
ça.
Et François Morel joue le rôle d'oncle.
Elle joue Vania et c'est formidable parce que François, c'est un homme qui a une espèce de culture un peu comme ça, mélancolique, voire nostalgique. C'est un poète un peu lunaire. C'est très curieux comme c'est un homme chafouin de tendresse et peut-être d'un petit chagrin secret. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'est un homme que nous aimons tous, François Morel. Le public l'aime beaucoup et à juste titre.
Et son
visage
aussi.
Il écrit des chansons qui disent très long. Et je trouve que dans Vania, il amène une humanité absolument bouleversante. Et il est entouré de par exemple, je vous prends Audrey Bonnet, le public ne la connaît pas. Mais pour nous, dans le théâtre, c'est des références d'immenses comédiennes. Stéphane Caillard, c'est une découverte que les gens vont faire. Et puis, il y a les monuments, il y a Christine Murillo, Catherine Ferrand qui nous accompagne, François Martouret. Donc tout ça, c'est formidable. Je suis très heureux.
Ça crée, en tout cas, la façon dont vous avez filmé cette répétition et cette pièce en même temps, ouais. Ça crée une incroyable proximité. Il n'y a pas de public, mais nous, on a vraiment l'impression d'être une petite souris avec vous et d'être au plus proche de vous. On écoute un extrait, un échange entre oncle Vania, François Morel, et vous, Jacques Weber, le médecin du village, à propos d'Héléna, la jeune femme belle d'Alexandre, vieux professeur à la retraite, hypochondriaque et vaniteux.
C'est la deuxième femme, hein, vous la voyez. Belle, si belle. S'est mariée avec lui quand il était déjà tout desséché. Elle donne sa beauté, sa jeunesse, sa liberté, son éclat. Pourquoi ? Mais pourquoi ?
Elle lui est fidèle ?
Hélas, oui.
Pourquoi hélas ?
Mais parce que cette fidélité est infiniment fausse, c'est totalement illogique. Tromper un vieux mari qu'on ne peut pas sentir, c'est immoral, mais sacrifier sa jeunesse, sa vérité, ça, c'est pas immoral.
Les mots vont
magnifique,
à l'inverse
magnifique.
De ce qu'on pense.
Et je vous remercie d'avoir choisi cet extrait parce qu'il est exactement à l'opposé du ton obligé théâtral pour faire passer les textes. Là, il y a vraiment une proximité, une intimité qui fait résonner très justement c'est magnifique ce thème.
Une douceur.
On ne peut plus.
Vous le disiez, donc il y a eu 3 films, Atelier Vania, Atelier Cyrano et Atelier Misanthrope, acte 1, scène 1. Atelier Cyrano, forcément, je pense à vous avant tout, mais je pense aussi à Gérard Depardieu. Il y a un choix musical que vous nous avez donné pour ce journal inattendu. C'est Gérard Depardieu qui chante Barbara, l'île aux mimosas. Alors, on va l'écouter juste en retour de pub. On l'écoute juste après. On se quitte un court instant et on reviendra avec Gérard Depardieu qui chante Barbara tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Jacques Weber
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Pour le temps qu'il me reste à vivre, je stopperai mon piano ivre pour pouvoir vivre avec toi sur ton île aux mimosas. Et comme deux chevaux courant dans la prairie, comme deux oiseaux volant vers l'infini et comme deux ruisseaux.
Je vous sens bouleversé, écoutez Gérard Depardieu.
C'est le miracle, Barbara. C'est le miracle absolu. Voilà un homme qui, comme moi, pèse aux environs de 130 kilos.
Merci.
Il y a 130 kilos de génie. Et vous avez vu, il chante sur des pattes de colombe.
Oui.
Enfin, c'est d'une légèreté, d'une féminité inouïe. Et le choc qu'il y a entre Barbara et lui, moi, c'est pour moi une des plus belles choses que j'ai vues et entendues dans ma vie. Mais vraiment, j'étais dans un état. Et là, dès que j'ai... Ça, c'est comme Piaf quand j'étais enfant, quoi. Dès que j'entends là, ça, qu'il me reste à vivre, à peine comme ça, c'est timide presque, c'est chétif. C'est... Et moi, hop, ça y est, j'ai l'émotion tout de suite dès les premiers mots. Ouais.
Atelier Vania, Atelier Cyrano et Atelier Misanthrope avec Denis Podalydès dans le rôle d'Alceste. Ça, c'était un choix auquel
un choix
vous teniez.
C'est un choix d'amour.
Absolument.
Et d'amitié, et donc chez moi d'admiration et de respect. Parce
la
que...
bonne nouvelle, c'est qu'avec ce confinement, tous les acteurs étaient disponibles.
Ben oui, c'est pour ça, c'est bien. Parce que je me suis payé des petits rêves comme ça. Tu peux faire ça ? Oui. Oh, génial. Oui, c'est magnifique. Non, surtout quand on voit les emplois du temps de Denis Podalydès, c'est assez rigolo. C'est assez.
Le président de la République a promis un début de réouverture des lieux culturels.
C'est la promesse du président de la République.
C'est quoi votre
idée?
Non,
mais si vous
voulez,
je peux comprendre qu'il marche à vue aussi. C'est comme les scientifiques marchent à vue, ils marchent à vue. Donc après tout, bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais d'une façon plus générale, on n'a pas attendu le Covid pour se rendre compte que les promesses de M. Macron sont absolument... C'est du baratin, c'est du mensonge permanent, c'est de l'électoralisme mégalomaniaque. Enfin, je n'aime pas ce gouvernement. Alors cet homme, naturellement, il est extrêmement intelligent, sans aucun doute. Il n'abîme pas la fonction, ce qui pourrait être le cas si une dame comme Le Pen passait. Mais bien sûr, je peux comprendre ces atermoiements. Mais vraiment, il y a quelque chose quand même qui paraît maladroit pour tout le monde. Car ce qui nous embête tous, c'est le... On ne sait pas où ça va, mais en même temps, c'est un peu ça aussi le problème, c'est que les scientifiques eux-mêmes, vous savez, la science est inexacte par définition. On progresse, on rétrograde. Il y a des accidents dans les avancées de la science. Quand on découvre l'immunothérapie il y a quelques années pour le cancer, il y a de la casse au début, et puis maintenant, c'est magnifique. Il ne faut plus avoir peur du cancer. Bon, voilà. Enfin bon, bref, je ne veux pas aller plus loin là-dedans, je suis incompétent, mais quand on parle des promesses d'un État, quel qu'il soit d'ailleurs, quels que soient les gouvernements, la plupart du temps, je me méfie énormément parce qu'elles sont toutes, hélas, mille fois hélas, électoralistes, donc à court terme.
Voilà. Alors, mettant ces promesses de côté, on vous souhaite
c'est
en
pour ça aussi qu'on va nous en parler à Nicolas Hulot.
Au théâtre, on l'espère le plus vite possible. Vous êtes un passionné d'actualité et d'environnement. Dans un instant, le rappel des titres, votre météo et votre reportage inattendu nous fera découvrir l'archéologie animale, c'est passionnant, et aussi Nicolas Hulot sera notre invité. À tout de suite sur RT.
Le journal inattendu de Jacques Weber avec Ophélie Meunier sur RTL.
Il est 13h.
Le journal inattendu de Jacques Weber. 13h, les titres de l'actualité. Ophélie Meunier.
Un nouveau drame, une nouvelle attaque. Hier à Rambouillet, une policière de 49 ans a été assassinée par un ressortissant tunisien à coups de coups de couteau. L'homme n'était pas connu des services de police, mais se serait radicalisé ces derniers mois et aurait prémédité son acte. À un an de la présidentielle, la politique antiterroriste du gouvernement est durement remise en question par l'opposition. Jordan Bardella, député européen Rassemblement National, est au micro de Jacques Seret pour RTL.
L'histoire se répète encore et toujours avec à chaque fois les mêmes profils, les mêmes modes opératoires et la même impuissance de la part de l'État. Il y a un an, quasiment jour pour jour, il y a eu à Romans-sur-Isère un attentat qui a été commis par un réfugié soudanais. Au mois de septembre, un Pakistanais qui a attaqué au hachoir les locaux de Charlie Hebdo, Samuel Paty et le Tchétchène à Nice. Trois Français qui ont été égorgés par un Tunisien. Donc on voit bien que la politique migratoire totalement anarchique remet en cause la sécurité des Français. Et il faut évidemment y mettre un terme, décréter un moratoire sur l'immigration et faire en sorte que jamais un clandestin qui arrive en France ne puisse espérer autre chose qu'une expulsion avec l'application de la loi.
Jean Castex a décidé d'organiser en urgence aujourd'hui une réunion interministérielle pour déterminer les suites qu'il convient de donner à cette attaque mortelle. 400 000 personnes supplémentaires deviennent prioritaires pour se vacciner. Il s'agit des travailleurs de deuxième ligne, comme les caissiers ou les agents de sûreté ou encore les chauffeurs de bus. Si vous êtes de ce métier et avez plus de 55 ans, vous pourrez avoir un accès direct au vaccin AstraZeneca. C'est ce week-end également qu'arrive dans les pharmacies françaises le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson. Je rappelle qu'une injection de ce sérum suffit pour être protégé contre la Covid-19. Arrimage réussi pour SpaceX après de minutieuses vérifications. Dans quelques minutes maintenant, Thomas Pesquet et son équipage s'installeront à bord de la Station Spatiale Internationale. Ils y passeront 6 mois pour réaliser 100 d'expériences scientifiques. Nom de la mission Alpha. Et puis retour sur Terre, direction Saint-Étienne à 13h. C'était le coup d'envoi du match contre Brest pour cette 34e journée de Ligue 1 de football. Bonjour Raphaël Vanta, vous suivez la rencontre pour RTL. Alors qu'est-ce qui s'annonce ?
Alors 0-0 ici sous le soleil printanier de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Les Verts 13e au classement doivent gagner cet après-midi pour assurer définitivement leur maintien en Ligue 1. Même objectif pour Brest, 15e, rester en Ligue 1 mais aussi renouer avec la victoire à l'extérieur pour les Bretons qui n'ont pas gagné hors de chez eux depuis le 29 novembre. novembre dernier.
Merci Raphaël. En direct de Saint-Étienne, l'autre affiche du jour, c'est Metz PSG et c'est à 17h. Et à 13h, la météo, c'est avec notre invité. Alors, quel temps fera-t-il, Jacques Weber?
Eh bien, écoutez, il y aura du soleil partout en France cet après-midi, avec au pire un voile nuageux sur les régions de la façade ouest, nous voulons dire la Bretagne, c'est ça?
Tout à fait.
Alors, faut quand même rajouter que c'est pas si fréquent que ça, qu'elle est sous les nuages, la Bretagne, c'est une légende. Le vent soufflera assez fort près de la Manche, de même que le vent d'autan, qui atteindra les 80 km/h en rafale du Roussillon au midi toulousain. Les températures seront comprises entre 14 degrés à Cherbourg et, ça me fait rire, et 27 degrés. Il ne s'agit pas du degré du vin de Bordeaux, et 27 degrés à Bordeaux. Fera 20 degrés à Paris.
Merci pour toutes ces informations très précises. Jacques Weber, homme de météo, homme de culture, vous avez voulu montrer dans ce journal que la culture ne concerne pas que les hommes, mais aussi les animaux. Notre reporter Virginie Garin est allée rencontrer un naturaliste pour qu'il nous explique ce que peuvent être les cultures animales et pourquoi il faut absolument les préserver. C'est votre reportage inattendu.
Merci. Oui, les animaux aussi sont capables de transmettre au sein d'un groupe des gestes, des traditions, des langages. Alors chez les humains par exemple, certains parlent anglais, d'autres chinois. Eh bien ça existe aussi chez les oiseaux. Le rossignol de Provence ne chante pas comme celui du nord de la France. Il y a des accents chez les oiseaux. Et cette notion de culture animale a été découverte par les Japonais. Marc Giraud, qui est naturaliste et qu'on connaît bien sur RTL, nous parle d'une des premières observations dans les années 50 sur des singes avec des patates douces.
C'était une femelle qui s'appelle Imo, une macate, qui s'est mise à laver ses patates et les autres l'ont imitée. Et ensuite, quand ils ont essayé dans l'eau de mer, ça les a salés. Ils ont commencé à faire de la cuisine, en fait. Et c'est devenu une culture locale. Seuls ces macaques lavent leurs patates et les autres ne savent pas le faire.
Autre exemple, chez les chimpanzés, il existe différentes cultures de la séduction.
Il y en a qui draguent en secouant les arbres, d'autres en faisant des confettis. Ils mordent des petites feuilles et ils les jettent. D'autres qui miment l'acte sexuel. Donc vous voyez, c'est des cultures très différentes.
Les animaux sont donc capables d'apprendre aux autres, de transmettre à leurs petits des gestes.
On l'a vu chez des macaques crabiers dans un temple en Thaïlande. Les femelles arrachent des cheveux aux touristes, c'est des singes assez sans gêne, faut bien le dire. Et elles s'en servent de fils dentaires. Elles se nettoient les dents avec. Ensuite, elles transmettent ce geste à leurs petits, mais d'une manière précise, c'est-à-dire qu'elles font leur geste au ralenti et même exagéré. Donc c'est vraiment un tuto.
Voilà pourquoi il faut désormais non seulement protéger les espèces, mais aussi leur culture.
Par exemple, quand on détruit une population d'éléphants, on détruit la mémoire des vieilles femelles, parce que c'est matriarcal, et cette mémoire est très importante dans la culture, non seulement des éléphants, mais pour toute la savane, parce qu'en cas de période de sécheresse, par exemple, ce sont les vieilles femelles qui vont retrouver les sources là où il faut gratter pour trouver un peu d'eau.
Marc Giraud est un homme passionnant, et il a une question pour vous, Jacques Weber.
Je suis presque sûr que Jacques est très concerné par l'écologie, et je pense que beaucoup d'acteurs le sont, mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas, à votre avis? Pourquoi on est aussi peu conscient des choses et pourquoi on fait aussi peu d'efforts?
Une réponse béotienne, mais enfin j'ai l'impression que d'abord tout le monde est parfaitement conscient de la chose et c'est ça qui est terrible. C'est que malgré notre conscience, mais qui ne date pas d'hier, puisque souvenez-vous de René Dumont qui passait pour un fou furieux quand j'étais tout petit avec ses sandales et son vélo et qui faisait 2% aux élections, il avait 2% aux élections, il avait déjà tout décrit des années 2000. Et c'est ça qui moi me bouleverse complètement, c'est le fait que nous avons totalement oublié la révolution copernicienne. Tout le monde croyait que la Terre était le centre du monde et donc que l'homme était le centre du monde. Et puis il y a un mec qui a dit, bah non, on est un tout petit système solaire, etc. Mais on a oublié, on est resté bien au centre. Mais ce qui est de formidable, et ça n'est pas seulement en préservant la culture des animaux, nous préservons notre culture et nous préserverons le monde. Il n'y a pas l'homme et sa culture d'un côté, arrêtons de sectoriser les problèmes. Et je pense que le problème, il y a une fraternité culturelle à retrouver et nous sommes, oui,
les cousins et les frères, des plantes, des animaux, etc. Vous parliez tout à l'heure des patates douces, mais il y a aussi l'exemple du poisson qui, pour faire la cour, fait une fresque géosymétrique, une fresque sublime avec le sable dans les grands fonds pour draguer la dame. La dame arrive, il y a de l'amour entre eux, et après il efface sa fresque. Ce sont des choses qui non seulement sont poétiques et bouleversantes, mais qui disent très long sur notre ignorance culturelle d'ailleurs, qui vient aussi des religions. Hein, la religion chrétienne, elle a dit des grosses conneries dans sa vie, et sur les femmes, ne l'oublions pas, et sur le monde animal. Par très très longtemps, on a dit que par exemple les indigènes étaient des animaux, donc les animaux ça n'existait pas. Bref, rappelons-nous de tout ça avant d'aller regarder méchamment d'autres religions.
Voilà. Et dans un instant, on continue cette conversation passionnante sur l'environnement avec Nicolas Hulot, c'est votre invité du journal inattendu. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Jacques Weber
avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Jacques Weber
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et Jacques Weber, l'invité que vous avez choisi pour votre journal inattendu est avec nous. Bonjour Nicolas Hulot, merci.
Bonjour.
Je précise que vous ne vous connaissez pas tous les deux,
non.
Mais Jacques Weber, vous êtes particulièrement sensible aux actions et aux idéaux de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, je rappelle que vous avez consacré une grande partie de votre vie à nous aider à prendre conscience de l'urgence écologique. Vous avez été ministre de la transition écologique de mai 2017 à septembre 2018, avant de décider, on le sait aussi, de démissionner du gouvernement. D'abord Jacques Weber, quel est votre regard sur Nicolas Hulot et son action ?
C'est formidable que vous me posiez cette question, parce que d'abord, très longtemps, au début, pour moi, c'était le tuba, c'était le mec qui parlait avec le tuba.
Et le bruit qui va avec.
Et puis après, tout de suite, très vite, je me suis rendu compte que c'était un homme un peu solitaire et qui s'égayait de nous mettre le doigt sur les choses graves et avec urgence, avec engagement. Et j'entendais beaucoup de mais c'est odieux d'entendre aussi bien au niveau de l'écologie qu'au niveau de plein d'autres choses cette expression de merde, de bisounours, faut arrêter d'être gna gna gna. Mais enfin bon, bref, c'est ça le plus important. Bon bref, je résume. Et après, cet homme a eu ce courage totalement, paradoxal, de dire « je vais tenter le coup ». C'est-à-dire que je vais prendre une fonction, c'était un ministère d'État, donc on pouvait quand même croire enfin aux mensonges du gouvernement. On s'est dit, tiens, ministre d'État, il y a une prise de conscience. Et en plus, on met un type qui sait de quoi il cause, qui se bagarre depuis des années. Et là-dessus, et j'étais moi très, et je dois vous le dire, Nicolas, j'étais très très ému. Et d'abord, lui aussi, enfin, ça se voyait, son émotion, à avoir loupé ce pari dont on a besoin. Et finalement, la question que me posait le monsieur tout à l'heure sur la culture animale, qui disait, mais pourquoi ça prend tant de temps? On est au cœur du problème avec le cas de Nicolas Hulot, puisqu'il a essayé de concilier le politique, le diplomatique et l'urgence absolue écologique. La maison brûle, ça date d'il y a 40 ans, enfin, je ne sais plus combien d'années, de Chirac. Donc voilà, la question que je voulais lui poser, c'est comment il analyse cela, comment faire, exactement la question qu'a posée l'autre, comment faire en étant parfaitement conscient, et ça je crois que plus en plus de monde sont tout à fait conscients de la chose, comment faire pour, avec cette prise de conscience, faire que le politique, nom de Dieu, accompagne ça. Et je pense qu'il faut totalement rééquilibrer tout programme politique en ayant comme pièce maîtresse, comme pièce centrale, l'écologie. C'est-à-dire, oui, en rassemblant les problèmes, non pas en les sectorisant. Si l'écologie reste un petit coincé comme ça, à part, il faudrait quand même s'en occuper, parce que, voilà. Donc cette question, c'est
vaste
celle que je pouvais poser.
Excusez-moi, je suis un peu long. Nicolas Hulot. Une réponse.
Oui, j'aimerais bien avoir une réponse simple à votre question, parce qu'en réalité, on s'interroge tous depuis longtemps de savoir pourquoi c'est si compliqué de réunir l'humanité pour se sauver d'elle-même. Et je pense qu'il y a d'abord un verrou culturel. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il y a une forme, à un moment on parle beaucoup de séparatisme que nous avons érigé au fil du temps entre nous et la nature. On a une civilisation en fait qui méprise la nature et on est quelque part aveuglé à juste titre, mais il serait temps peut-être d'en prendre conscience par le trop grand succès de notre intelligence et on pense pouvoir détacher notre destin du reste du vivant. vivant, c'est une plaie de et beaucoup d'esprits, souvent d'ailleurs très très éduqués, même parmi les élites politiques et économiques, sont convaincus que demain la technologie trouvera remède aux désagréments que nous subissons. Ouais. Et c'est là qu'il y a une difficulté, c'est qu'en fait on n'a pas la même analyse. On a l'inquiétude. Je pense que tout le monde, quand on parle d'écologie, de changement climatique, il y a une forme de sincérité. Mais personne, enfin peu en tout cas, ont compris que ce qui est en cause, c'est le modèle que nous maintenons et que nous encourageons, c'est-à-dire un modèle qui épuise, un modèle qui s'est érigé sur le dos de la nature, et que l'homme n'a pas été capable de se fixer des limites. Mais pour prendre conscience de ça, il faut une société plus apaisée et plus unie. Et voilà. Pardon de vous le dire, mais puisqu'on parle des politiques, moi, je regrette que sur un sujet qui soit aussi complexe, qui quelque part conditionne simplement l'avenir de l'humanité, ni plus ni moins, il y a autant de divisions, autant de caricatures. On a été capable, dans des grands moments de l'histoire, pour ne parler que de notre pays, d'union nationale. Moi, je vois notre pays se briser de l'intérieur, cette confrontation, cette agressivité dans le débat public, alors qu'on a besoin d'additionner les intelligences, parce qu'un homme ou une femme, vous faisiez référence à ma propre expérience, tout seul ne peut pas organiser une transition d'une société aussi profonde et aussi radicale, et elle ne peut pas le faire en confrontation avec les citoyens.
Mais alors comment faire, pardonnez-moi, pour garder espoir, pour faire en sorte que ce ministère de la transition écologique ne soit pas indéfiniment un ministère de la police de l'impossible?
Il disparaisse, et il faudrait qu'à Matignon, si on garde les mêmes institutions, vous ayez un Premier ministre ou un vice-Premier ministre qui ait autorité sur l'ensemble du gouvernement. Parce que quand vous avez vu, j'étais pas au gouvernement depuis 3 semaines, que déjà il y avait une confrontation avec le ministère de l'Agriculture. Il y a un manque de cohérence, de convergence et de guidage. C'est pas simplement, c'est pas la responsabilité d'un homme, c'est un problème d'adapter nos démocraties et nos institutions aux enjeux du long terme et d'avoir une politique cohérente. Tout ce qui est toxique, c'est-à-dire tout ce qui participe à fragiliser l'avenir de l'humanité, il faut petit à petit s'en débarrasser par des voies réglementaires, par des voies législatives, et tout ce qui est vertueux, il faut le développer massivement. C'est ce que j'appelle, d'un terme qui fait peur, la croissance et la décroissance sélective, encourager ce qui est vertueux, et petit à petit, démocratiquement, eh bien, nous débarrasser de ce qui nous amène dans une période mortifère.
Voilà, je rebondis tout de suite sur le mot démocratique. Ce qui est terrible avec la démocratie en ce moment, elle nous pose des problèmes puisqu'elle n'arrête pas d'enfanter des monstres. Bolsonaro a été élu démocratiquement et Trump il y a un certain temps. Mais je voulais revenir sur la... Je pense aussi qu'il y a un problème. Nous vivons depuis quelques temps sur un type de système, un système libéral, un système capitaliste qui a été là. Pour un moment, il y avait un contre-feu qui s'était mis en place, mais dont on a vu les limites également, à vouloir laver plus blanc que blanc, ils se sont trompés aussi. Mais lorsque je vois sur cette formidable bande dessinée qu'a fait Nicolas Hulot,
Jacques Weber a sous les yeux votre dernier livre, Les petits pas.
Mais oui, mais c'est formidable. Tu sais, j'allais le tutoyer. Mais bon, vous savez pourquoi? Parce que d'abord, c'est clair. C'est pas cette espèce de philosophie frelatrée. Non. Là, c'est très clair. Ce sont des dessins qui disent très clairement aux enfants et aux adultes qui nous sommes des vieux enfants par rapport à notre incompétence. Mais voilà, par exemple, je tombe sur cette
bande
page
dessinée,
par hasard.
Avec
donc ça veut dire que l'économie, elle est au centre de tout, mais l'économie doit être assujettie au problème de l'écologie et non pas le contraire. Et c'est ça qui se passe, c'est le contraire. Regardez, je lis en très gros, selon le dernier rapport de l'association Oxfam qui lutte contre la pauvreté en 2019, on est sur un bouquin qui parle d'écologie. 26 milliardaires détenaient autant d'argent que 3,8 milliards de personnes parmi les plus pauvres de la planète. Point final. Tant qu'il y a ça, c'est inadmissible. Mais on dit, oui, alors parfois on me dit que je suis comme ça, bouillonnant, mais on a envie d'hurler. Tant que des femmes auront leur enfant mourant sur des seins écrabouillés par la famine, c'est insupportable. Fraternité universelle. Alors oui, l'utopie, oui, peut-être, je suis utopique. Oui, peut-être culot l'a été à un moment donné. Mais en tout cas, l'utopie, parfois, ça fait bouger. Ça me fout des coups de pied au
cul. Si vous permettez... Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, tout à très fait, bien, on pardon, vous entend très bien.
L'utopie, c'est de penser que ce modèle qui concentre la richesse et qui détruit le substrat de la richesse, c'est-à-dire nos ressources vitales,
exactement,
a une issue heureuse. Voilà. C'est ça l'utopie. Ce modèle n'a pas d'issue heureuse. Et c'est là qu'il y a une divergence de point de vue.
Société unie et apaisée, fraternité, un débat passionnant. J'imagine que vous allez poursuivre, je vous souhaite de poursuivre cette conversation tous les deux.
On s'est parlé au téléphone sans se connaître, mais moi je dis je vais à son... il a une maison, il a une fondation, Nicolas Hulot je crois.
Tout à fait.
Moi je vais, dans la mesure de mes petits moyens, je vais me démerder, je vais essayer d'agir.
Le début d'une belle rencontre,
oui.
En tout cas.
Merci en tout cas, j'ai été très honoré.
Merci à vous, Nicolas Hulot.
Et puis il est clair, tu comprends, moi je m'embarque, mais parce que voilà, je vais passer... Mais c'est en quelques phrases. Très clair, il a posé les problèmes.
Le message est passé.
Bravo.
On a une petite surprise pour vous dans un court instant. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Jacques Weber
avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Jacques Weber et Ophélie Meunier.
Si je pense le moins mort.
De Johnny Hallyday, je sais que vous aimez beaucoup Johnny. Et Johnny Hallyday est quelqu'un que notre petite surprise qui est en ligne aimait aussi profondément. C'est un homme bourré de talent dans son domaine. Il vous régale souvent avec votre épouse Christine.
J'ai une idée. Régaler, vous avez dit. Ah, il y en a qu'un.
Il n'a pas sa langue dans sa poche, il est installé quelque part.
Ah, alors j'ai décidé. Il a un grand chapeau noir.
Et il a un grand chapeau noir.
C'est le Marco. Il va faire péter les molécules.
Bonjour, Marc Vera. Merci beaucoup d'être avec nous chez Tétoilé.
Ça me fait un plaisir fou.
Grand ami de Jacques Weber.
Oui.
Comment allez-vous? Vous qui connaissez bien Jacques Weber, un Jacques heureux à table, c'est un Jacques qui mange quoi, déjà?
Bon, d'abord, avant tout, n'oubliez pas que c'est un épicurien. Hein.
Oui.
Vous savez, c'est un homme qui essaye de tout analyser. Il a un tel talent, c'est un comédien hors pair, vous comprenez? Il est vif, il est malicieux, il essaye de comprendre, c'est incroyable. Et c'est pareil au niveau de l'assiette. Il essaye de comprendre.
Ah, c'est vrai? Alors, qu'est-ce qu'il aime? Faites-nous saliver, bon, en plus à 13h25.
Je crois qu'il fait bien la synthèse dans le monde qui va nous arriver, le monde nouveau, c'est-à-dire une gastronomie. Il aime la gastronomie conviviale.
Ouais.
Il n'aime pas trop d'apparat, il n'aime pas... Mais il est comme moi, en fait. Hein. Il a un sens profond de la terre, du monde paysan, qui arrive dans l'assiette, qui peut être parfois sophistiqué, mais sans aller dans l'abus. Il aime les choses simples.
Voilà, mais c'est là. L'artiste, c'est la sophistication de nos racines, mais sans abus.
Et
je veux raconter. Marco, laisse-moi raconter ça. Deux trucs géniaux. Moi, c'est le grand ami. Mais tu sais ce qu'il a fait un jour? Il m'a presque engueulé. Et c'est grâce à lui que j'ai cet éveil sur le monde, sur la nature. Un jour, on se balade dans les bois. Il s'arrête. Moi, je vois un parterre en dessous des arbres, normal, tranquille, quoi, rien, de la verdure. Et il me dit, regarde ça. Je dis, quoi, oui, c'est de la verdure. Et là, il me dit, mais t'es fou, regarde, il y a ça. Et il me montre que sur 50 cm carrés de forêt à terre, il y a 100 plantes, 1000 odeurs. C'est extraordinaire. Ça, je pense, c'est extraordinaire. Et puis alors, il sait très bien que quand ma femme avait plus faim un jour, je me suis tapé tous les plats de ma femme, tous mes plats, plus le pot-au-feu savoyard. Et tout était sublime. Non, mais il faut, c'est des gens comme ça qui font, avec qui il faut se battre, avec qui il faut prendre l'étendard de la liberté et de la joie. La joie, c'est merveilleux. C'est énorme.
Moi, j'aime bien le mot bouffe. Tous les deux, Marc Vera, vous disiez il y a quelques mois, à l'occasion de vos 50 ans de carrière, que vous étiez le plus heureux des chefs. J'ai l'impression aussi, à côté de moi, d'avoir eu aujourd'hui, pour ce journal inattendu, le plus heureux des acteurs.
Je suis très heureux. Puis j'ai la chance justement d'avoir des amis comme ça et c'est magnifique quoi.
Merci pour ce petit clin d'œil, Marc.
Excuse-moi, j'ai trop parlé, Marco. J'aurais dû te laisser parler.
Attendez, est-ce que vous me laissez un tout petit peu la parole?
Très court, quelques secondes.
Alors très court. derrière un grand homme, un aussi grand homme, il y a toujours une grande femme. N'oubliez pas que c'est un couple remarquable. Et vous savez, l'attention sur l'environnement... Vous savez, Jacques, il m'a appris une chose, à comprendre la langue française. Il m'a écrit des récits diaboliques. Je ne lui ai jamais dit, je le dis aujourd'hui. Je lui dis aujourd'hui. J'ai appris à lire, à contempler. Tu te rends compte ce que tu m'as appris?
Eh ben, et toi, alors?
Comprendre la langue, le vocabulaire. C'est extraordinaire.
Ah, c'est vous-même. Je t'aime fort, voilà. Merci. J'entre dans une pharmacie, je pèse 120 kilos, je t'aime. Voilà.
Merci à tous les deux, merci Jacques Weber d'avoir pris les commandes du journal inattendu. Je rappelle qu'Atelier Vania, ce sera sur France 5 en prime time. Tout de suite, Jean-Alphonse Richard présente Confidentiel, consacré à Kurt Cobain. La semaine prochaine, je reçois Dominique Besnehard. Excellent week-end à tous, à samedi prochain, 12h30. Merci beaucoup Jacques Weber.
Le journal inattendu sur RTL. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.